lundi, mercredi et vendredi à 10h sur Plus FM, vous avez rendez-vous avec les billets d'Aline. Tout sur la famille, la société, l'éducation, la culture et toute la vie quotidienne de La Réunion, c'est avec Aline sur Plus FM les lundis, mercredis et vendredis à 10h. Les rendez-vous d'Aline, c'est sur Plus FM et c'est nulle part ailleurs.
Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve à nouveau sur Plus FM. C'est l'heure du billet d'Aline. En ce moment, c'est vrai qu'on voit partout dans les magasins des lumières s'illuminer avec des guirlandes. C'est la fin d'année qui va arriver à grands pas. Et nous savons tous que parmi les nombreuses fêtes fériées, nous avons le 20 décembre. Le 20 décembre, nous savons tous que c'est une date très importante pour les Réunionnais dans l'histoire de l'île de la Réunion. Cette date marque la fin de l'esclavage. C'est l'abolition de l'esclavage. Alors aujourd'hui, on assimile beaucoup de choses à cette date. Fête, festival métis, fête de la liberté. Moi, en tout cas, m'y appelle cette fête, fête CAF. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de voir avec vous, de vous faire écouter quelques informations sur l'histoire de l'île de la Réunion. Nous allons travailler, nous allons ici voir avec vous l'histoire du marronnage. En effet, il faut savoir que l'histoire du marronnage est bien sûr, chers auditeurs, liée à celle de l'esclavage. Malgré les recherches universitaires qui sont récentes, et oui, il faut souligner qu'elles sont récentes, les documents qui sont relatifs à l'histoire du marronnage existent en petit nombre. Car il faut savoir que malgré l'importance du phénomène, l'administration de l'époque a laissé peu de traces écrites sur le sujet. Le problème n'est pas seulement une question de conservation d'archives, mais nous avons surtout une pénurie d'informations sur l'histoire du marronnage. Et bien sûr, le souci de l'historien aujourd'hui a été de rechercher à travers les documents historiques la parole de l'esclave et du marron. Nous savons tous, et je l'ai dit, que l'insuffisance des sources rend difficile le travail de l'historien. Et c'est là que je vais me permettre de citer un historien qui s'appelle Jacques Le Goff. Il nous disait que la mémoire est un élément essentiel de l'identité individuelle ou collective. La mémoire collective est non seulement une conquête, mais c'est surtout un instrument et un objectif de puissance. Et là, nous savons que l'imaginaire du Réunionnais s'est emparé progressivement depuis les années 1960 de l'allégorie de ses héros, de ses révoltés, et le marronnage est un des éléments constitutif de l'identité réunionnaise. Quelle est la place qu'occupe le marronnage dans notre histoire? Tout d'abord, je crois qu'à mon sens, il est intéressant qu'on s'arrête quelques minutes sur la définition de ce mot. À l'origine, qu'est-ce que c'était le marronnage? Il faut remonter à l'époque des Antilles espagnoles. Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, notamment le Robert, on nous dit que le mot marron est apparu en 1640 dans les grandes Antilles espagnoles, où sévissait à l'époque la pratique de l'esclavage depuis le XVIe siècle. Cette altération de l'hispano-américaine, ce terme désigne les esclaves fugitifs, se cachant, vivant, et parfois se regroupant dans des régions isolées, restées à l'état plus ou moins naturel, les montagnes, les forêts vierges, les marécages, et qui étaient difficilement accessibles. Au cours du XVIIe siècle, ce terme se généralise, en même temps que le développement d'un système de plantation lié au mercantilisme, et multiplie les colonies esclavagistes en Amérique, c'est-à-dire au Brésil, dans les provinces unies, dans les Royaumes-Unis, Suède, Danemark et la France. L'Espagne n'a joué aucun rôle dans la découverte et la colonisation des îles du sud-ouest de l'océan Indien, qui a été faite par les Portugais, les Hollandais, les Britanniques et les Français. Mais le mot, utilisé dans toutes les colonies de l'Amérique tropicale, va y faire son apparition. Et oui, le marronnage, semble-t-il, dans la première décennie du XVIIIe siècle. En effet, en 1685, des pirates chassés des Caraïbes se réfugient dans l'océan Indien et fondent à Diego Suarez une république qui s'appelle Libertalia, de tendance anarchiste et sociale. Et la même année, est promulgué aux Antilles françaises le premier code noir qui concerne le marronnage. Ce sont les articles 38 et les articles 39, justement, qui font allusion au marronnage. Qu'en est-il du marronnage dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien au XVIe et au début du XVIIe siècle? D'abord, le 20 septembre 1598, l'amiral hollandais prend possession au nom des Provinces Unies de l'île Maurice, l'île Mauritius. Deux occupations provisoires hollandaises vont se succéder, dirigées par la VOC. 1638, 1658, 1664 et 1710, toutes deux échouent et la population totale n'atteint jamais 300 habitants. Amédée Nagapan écrit en 1706, l'île, je parle de l'île Mauritius bien sûr, ne comptait que 236 individus, 111 du sexe masculin, 58 du sexe féminin et 67 esclaves. Le nombre total d'esclaves ne dépassa jamais la centaine, les premiers malgaches introduits dans l'île en 1640. Inévitablement, l'esclavage entraîna dans son sillage, son corollaire, le marronnage. Le marronnage a bien concerné l'île Mauritius, surtout pendant la première occupation. Rien ne permet d'affirmer que le terme de marronnage y était déjà utilisé. Mais qu'en est-il alors, cette fois-ci, du marronnage dans l'île Bourbon? Les débuts du marronnage dans l'île Bourbon. Certains auteurs ont écrit que le premier marronnage avait eu lieu dès le début du peuplement définitif de Bourbon entre 1663 et 1665. En effet, le groupe des 12 personnes que nous connaissons, c'est-à-dire 2 Français et 10 Malgaches, dont 3 des jeunes filles, se séparent sur des critères ethniques. Les Malgaches se réfugient sur les premiers pentes de Saint-Paul, très rebelles ces Malgaches, et les 2 Français s'installent dans la plaine. Mais dans ce groupe, personne n'est alors esclave. Il existe un texte écrit par un témoin fiable, François Martin, qui a assisté en 1665 au retour des 10 Malgaches. Il parle d'une fuite dans les hauts, en fournit la cause, mais n'emploie jamais les termes d'esclave ou de marron. Je cite, « Les nègres avaient fui à la montagne ». Le sujet de leur conjuration était pour avoir à leur dévotion des négresses que les Français avaient amenées avec eux du Fort Dauphin. Après 1685, le Code Noir, la nouvelle de la promulgation d'un code noir pour les Antilles françaises, et nous avons vu pourquoi rapidement connu à Bourbon. La preuve, dès 1687, le terme esclave apparaît sur un document officiel à propos de la vente d'un jeune indien, esclave âgé de 12 ans. Un esclave de fait se développe peu à peu. signalons quand même qu'il n'y a pas encore de système de plantation sur l'île. Donc, comme l'a écrit Victor Schœlcher, il y a des marrons dès qu'il y a eu des esclaves. Dans l'histoire de l'Arabie heureuse, le Malouin Jean de la Roque, qui participe à une expédition maritime commerciale à Mocha, raconte son séjour à Bourbon du 17 au 27 décembre 1709. Je cite « Entre ces plaines qui sont sur les montagnes, la plus remarquable et dont personne n'a rien écrit est celle qu'on a nommée la plaine des Cafres, à cause qu'une troupe de Cafres esclaves des habitants de l'île s'y était alors cachée après avoir quitté leur maître. Cette plaine était inconnue avant la fuite des Cafres. Mais un esclave de fait, domestique, et donc moins brutal que celui sur les plantations, pousse l'esclave à s'organiser pour y échapper. À la même date, Antoine Boucher, dans son mémoire qui recense les habitants de l'île, cite 7 cas de marronnage et donne comme cause principale de ces fuites, tout simplement, les mauvais traitements de certains maîtres. Toujours selon Antoine Boucher, la lutte contre le marronnage a d'ailleurs débuté très tôt à Bourbon, et cela bien même avant l'officialisation de l'esclave. Antoine Boucher cite Jean Fontaine qui traque les marrons. Il est un créole mulâtre âgé de 35 ans. Il n'y a pas dans l'île la meilleure furée pour découvrir les noirs marrons, et pourvu que les approches aient un lieu aux environs, il le sent et ne manque d'aller droit à l'endroit où ils sont employés à cela. Il n'hésite jamais à le faire et sans dire, comme la plupart des autres, « ce n'est pas mon tour ». Jean Fontaine est un créole libre de première génération, un des fils du Parisien de Jacques Fontaine, arrivé sur l'île en 1665, c'est-à-dire début de la colonisation officielle, et de la malgache Marie-Anne San, épousée sur l'île en 1671. Nous pouvons appeler cette période, c'est la période qui concerne la grande époque du marronnage et nous sommes au XVIIIe siècle. En effet, la découverte de caféiers sauvages sur l'île montre que cette plante peut y réussir. Bourbon vient de trouver une culture de plantation. Et là, la compagnie qui va au nom du roi administrer Bourbon jusqu'en 1767 oblige les colons à consacrer au maximum 1/5 de leurs terres au caféier. Bien sûr, les besoins de main-d'œuvre entraînent un important accroissement de la traite négrière. En 1723, dans les lettres patentes, c'est-à-dire le code noir des Mascareignes, officialise un véritable système esclavagiste de plantation à Bourbon. La population libre, déjà fortement métissée et majoritaire en 1715, va devenir de plus en plus minoritaire, la traite augmentant rapidement le nombre d'esclaves, pris d'abord principalement à Madagascar, puis de plus en plus en Afrique de l'Est. Le marronnage commence alors à inquiéter. En effet, dès 1719, une amnistie est promise aux marrons qui se rendent, mais le marronnage est de plus en plus vécu comme un mal quotidien qu'il faut combattre. C'est pour cela que l'administration royale directe, qui débute en 1767, voit le marronnage décliner constamment et devenir rare en fin de période. Une meilleure surveillance par les autorités des obligations des maîtres vis-à-vis des esclaves semble en être la cause, en contribuant à une légère amélioration du sort des esclaves. Bien sûr, l'influence des Lumières joue dans le même sens. D'ailleurs, en 1775, la peine de mort est supprimée, remplacée par les travaux forcés à perpétuité avec la marque de fleur de lys sur la joue gauche. Rappelons que la fleur de lys était le symbole de la monarchie. Enfin, la période révolutionnaire, droit de l'homme de 1789, marqué également par la révolte de Saint-Domingue à partir de 1791, l'abolition de plusieurs landeux en 1794, l'abolition manquée de l'esclavage, son non-application en 1796, le rétablissement du jure par le premier consul en 1802, la condamnation internationale de la traite en 1815, tous ces événements vont orienter le combat abolitionniste vers d'autres formes, dans un premier temps, celle des révoltes que nous connaissons à La Réunion, celle de Père-Lafosse, de Sainte-Rose et de Saint-Leu. Paradoxalement, le marronnage, alors exceptionnel, devient sous la forme littéraire et artistique l'un des grands modes d'action contre l'esclavagisme. C'était la première partie de notre émission sur le marronnage. C'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour aborder avec vous la deuxième partie qui s'intitule « La pratique du marronnage à Bourbon ». Merci, à bientôt.
Tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h sur Plus FM, vous avez rendez-vous avec les billets d'Aline. Tout sur la famille, la société, l'éducation, la culture et toute la vie quotidienne de La Réunion, c'est avec Aline sur Plus FM les lundis, mercredis et vendredis à 10h. Les rendez-vous d'Aline, c'est sur Plus FM et c'est nulle part ailleurs.